Tout pour investir, la place de l'Immo.
Marie Cœur de Roy, notre spécialiste immobilier maison. Bonjour Marie.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Et avec nous, Steven Briand, du pôle immobilier de Net Investissement.
Tout à fait, bonjour Antoine. Bonjour.
Alors,
Marie.
Salut,
les thématiques du moment, bon évidemment, tout est centré autour de l'actualité politique de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les grandes thématiques?
Alors déjà, nous, on va faire notre match avec Stéphane, mais d'ailleurs, j'aimerais bien relancer un peu le sujet. Et peut-être Stéphane pourrait... Je le prends un peu par surprise, là, au démarrage de cette émission.
Tiens, paf.
J'ai un petit coup de gueule, alors je sais que je me permets de le faire, parce que je suis à l'antenne, et voilà. Sur l'absence, ou le peu de présence de ces questions du logement au cœur de cette campagne, bien qu'il y ait des mesures quand même éparses des trois blocs majoritaires aujourd'hui. Le sujet quand même logement et notre manière de regarder localement pour qui on vote en fonction de notre logement. Je pense que ce serait intéressant un jour qu'on se penche là-dessus, Stéphane, je ne sais pas si on a la capacité de le faire, de voir où votent les gens en fonction de la qualité de leur logement et de leur capacité à trouver un logement abordable et de bonne qualité. Je pense notamment évidemment aux performances énergétiques de nos logements.
Bien sûr, ouais.
Mais ça sera un vrai sujet parce qu'à un moment donné, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent que le logement, c'est votre principal poste de dépense, que vous soyez locataire ou propriétaire avec des remboursements de mensualité de crédit, ça pèse parfois 50% de vos revenus. Hein. Ouais, et donc, on en parle un peu trop peu. On rappelle que de notre logement dépend beaucoup de choses, notre sécurité dans l'endroit où on vit.
Le besoin primaire, le besoin de se loger.
Exactement. L'éducation des enfants, la capacité d'avoir une chambre pour chacun de nos enfants, avec un bureau pour travailler, les cohabitations subies, hein, que ce soit des violences psychologiques ou des violences physiques. Donc, à un moment donné, s'il y a 2-3 élus qui nous écoutent, qui se posent la question de savoir pour qui voterait votre électorat s'ils étaient bien logés. Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un travail d'analyse à faire qui va être assez long, mais on pourra en effet s'y pencher sur un prochain match, de voir en effet quel impact il peut y avoir d'un point de vue politique sur le logement. Mais c'est vrai que ce coup de gueule, on le comprend, Marie, puisqu'il n'y a pas eu réellement, je dirais, de débat sérieux, en tout cas et concret, sur la politique du logement en France.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans les programmes, mais c'est vrai que dans les émissions de débat qu'on peut
personne
regarder... Là, vraiment, on a. Et puis, alors, c'est vrai qu'on a ce vieux cliché dont vous parlez tout le temps, Marie, mais qui reste quand même d'actualité, c'est cette considération de un maire qui construit, c'est un maire qui perd les élections.
Bah, plus aujourd'hui, à mon avis.
Et ben voilà. Non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Il faudrait revoir tout ça. Parce que, a priori, au niveau local, au niveau de toutes les initiatives dont on parle tout le temps, d'habitat mixte, de solutions un petit peu innovantes pour se loger, là, il y a franchement des arguments pour se faire élire. Là,
Juste d'un mot, parce qu'après on va m'accuser de faire le jeu de certains ou pas. Je rappelle les principales mesures des trois blocs en présence. Donc on a l'extrême droite qui, elle, propose une espèce de prêt à taux zéro de 100 000 euros pour les jeunes couples qui pourraient potentiellement devenir partiellement un don à la naissance d'un troisième enfant. Donc vous n'auriez à rembourser que 40% de ce PTZ de 100 000 euros. Voilà pour le RN. Du côté de Gabriel Attal et de la majorité sortante, on a une proposition d'une suppression des frais de notaire pour les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros. On rappelle que quand on parle de frais de notaire, là on parle exclusivement des droits de mutation à titre onéreux, donc de la barre qui va aux collectivités locales. Et puis du côté de la gauche et du nouveau Front Populaire, on a là aussi la promesse d'un renforcement du prêt à taux zéro sur tout le territoire pour l'achat dans le neuf comme dans l'ancien. On n'a pas de chiffre précis ni les conditions de ressources. En revanche, sur le marché locatif, je tiens à insister là-dessus, on est sur une crise historique du marché locatif. On n'a rien ou peu du côté du RN, à part une remise en cause des calendriers pour les passoires thermiques, rien du tout du côté de la majorité sortante. Et pour le coup, en dépit de toutes mes opinions politiques, on a pas mal de propositions du côté de la gauche, avec une hausse des APL de 10%, un encadrement des loyers partout dans les zones tendues, une garantie universelle des loyers qui serait plus concernante que Visal, qui est déjà très importante, la garantie universelle des loyers qui se substituerait à Visal et qui permet d'avoir une garantie contre les impayés de loyers pour les propriétaires, mais là elle ne concerne qu'une partie des locataires. Cette garantie universelle concernerait tout le monde. Donc voilà, vous faites votre marché sur tout ce qui mais je voulais vous donner à peu près toutes les propositions sur ce secteur.
Voilà, encore une fois, ils font pas trop de pub autour et c'est vrai que c'est intéressant.
Surtout par les temps qui courent, on parle d'une crise de logement, mais en effet c'est assez inédit et personne n'a l'air de s'en soucier. Mais moi, ce que je vous propose, c'est qu'on part sur des choses peut-être un peu plus...
Mais oui, et en plus, on fait des matchs avec Steven.
C'est vos fameux matchs, là.
Mais oui,
exactement.
Alors, qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui,
Steven? Alors, aujourd'hui, l'idée, c'était quand même qu'on parte sur un ton un peu plus léger, qu'on parle un peu de vacances, ça y est, l'été revient. On va tous s'interroger, alors j'espère que c'est déjà fait, mais en tout cas sur nos destinations durant cette période estivale. Il y a quand même deux régions qui ressortent souvent et assez bien, qui sont assez plébiscitées par les Français. C'est quand même la Bretagne, pour chercher un peu de fraîcheur et surtout des paysages authentiques. Et ensuite, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour rechercher un cadre un peu différent, et
cuire
ces plages de sable fin, voilà. Et cuire en effet avec de fortes chaleurs. Donc je trouvais que c'était intéressant de mettre en avant ces destinations touristiques par excellence, mais surtout de se dire et de s'interroger, est-ce que, et c'est les questions que, moi, que mes clients me posent régulièrement, oui. Est-ce que finalement ma destination que j'aime avec ma famille, est-ce que ça ferait sens en termes d'investissement immobilier? Et c'est souvent une question qui est souvent posée, et on le verra, c'est pas forcément la bonne des réponses, puisque on va mêler un peu de l'affectif avec finalement de l'immobilier sur une notion plutôt quand même financière en termes de rendement. Donc les deux généralement sont assez compliqués, mais on le verra au cas par cas. Il y a quand même de belles opportunités.
On commence par quelle ville?
On va commencer par Vannes. Je suis breton, donc autant en profiter. Vous connaissez sans doute, j'imagine très bien tous les deux. Je ne sais pas si on démarre tout de suite peut-être par les notes. On annonce le résultat, on le fait à la fin. C'est comme...
Moi j'aime bien qu'on le fasse à la fin, comme ça on peut essayer de faire des paris.
Comme ça on raconte l'histoire.
On raconte l'histoire de ces deux villes et on voit ensuite le résultat et on en discute
alors,
ensemble.
Alors les atouts de Vannes déjà,
Déjà forcément, on va parler un petit peu du paysage du Morbihan qui est juste exceptionnel. Voilà, c'est un cadre de vie, c'est des remparts médiévaux, c'est son port pittoresque et ses maisons à calembages. Donc il y a quand même...
Un club de rugby qui va se retrouver en top 14.
J'ai vu ça.
Attention.
J'ai vu ça. J'allais quand même parler de la
Le prisme mais... d'Antoine.
Mais non, mais attends, c'est des touristes. C'est des gros matchs.
Ouais.
C'est des... ça veut dire on va agrandir le stade, on va accueillir plus de gens. C'est... voilà, c'est le premier gros club breton dans l'élite du rugby.
Et surtout qui tombe à Vannes, qui est quand même l'une des villes touristiques par excellence. C'est quand même 3 millions de visiteurs chaque année. C'est quand même une ville quand même assez importante.
Hein, 3 millions de visiteurs
chaque année.
Pour combien finalement de locaux?
On a 53 000 habitants.
Ouais.
Donc je vous laisse imaginer un petit peu. Donc il y a et de toute façon là, c'est à la fois l'un des points forts mais l'un des désavantages de Vannes. Voilà, sa principale richesse économique est quand même très orientée sur le tourisme. On verra, il y a quand même d'autres secteurs comme l'industrie ou encore l'agroalimentaire. On a ENAF notamment qui est présent, mais ça reste quand même très limité et on a quand même une dépendance quand même assez soutenue, assez importante vis-à-vis du tourisme. Donc ça, c'est quand même un point fort. Est-ce que véritablement le marché locatif peut être intéressant sur de l'immobilier classique, hein? Je parle sur un bail classique de 3 ans.
Oui, parce que c'est ça le sujet. Hein.
Le sujet est là. Et on a un taux de propriétaires qui est quand même supérieur à la moyenne nationale. Donc finalement,
Les prix sont comment à Vannes, justement?
Les prix sont quand même assez attractifs si on se compare et si on se réfère notamment à Rennes ou encore à Nantes. On est globalement à 3600, 3800 euros du mètre carré. Donc ça reste quand même pertinent. On va dépasser les 4000 euros du mètre carré pour une maison.
Ouais.
Là aussi, où on peut s'interroger sur le plafond de verre de Vannes, c'est en termes d'évolution des prix. Si on regarde là au cours des 5 dernières années, ça a été plus 35% pour un appartement. Plus 50% pour une maison. Si on regarde au cours des 10 dernières années, c'est plus 80% pour une maison. Et c'est quasiment plus 60% pour un appartement.
Ah ouais, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout, quoi?
Justement. Et on le verra sur les notes. Je pense qu'à mon avis, on n'arrive peut-être pas sur un plafond de verre, mais sur peut-être une limite. Puisque, voilà, malgré l'attrait touristique, je ne pense pas que les prix vont encore, en tout cas, se développer, en tout cas augmenter.
Et puis, il y a l'enjeu économique et de transport, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, comme vous parliez, Stéphane, du fait que c'était une ville quand même essentiellement touristique, est-ce qu'il y a beaucoup d'industries, de travailleurs? Est-ce que c'est beaucoup de télétravail? Et donc, du coup, est-ce que les transports, est-ce que le train, est-ce que... Enfin, voilà, comment ça se passe?
Alors, ça reste une...
Le télétravail, on ne peut pas fabriquer le pâté de chez soi.
C'est compliqué.
Oui.
Mais voilà, l'agroalimentaire est quand même bien représenté. On a des secteurs du tertiaire. On a le tourisme sur lequel on ne peut pas géolocaliser finalement l'ensemble des salariés et l'ensemble des travailleurs qui sont liés au tourisme. Donc il y a quand même une économie locale qui est amenée à rester. C'est une ville qui est connectée. On a quand même la présence de la gare TGV qui amène à 2h30 à la capitale. C'est une heure pour Rennes, 4h pour Bordeaux. On a un réseau de bus qui s'est bien développé. Mais voilà, ça reste, je dirais, cantonné à principalement la gare TGV qui d'ailleurs va se transformer en un véritable pôle d'échange multimodal à horizon fin 2024 pour devenir un vrai hub et connecter, je dirais, l'ensemble des modes de transport. Mais ça reste cantonné, je dirais, à une gare TGV.
Alors traditionnellement, après avoir fait les atouts, on fait les désavantages. Mais là, j'ai l'impression qu'à chaque atout, vous nous donniez déjà le désavantage.
Je fais un petit mix, mais j'essaie de tout doucement donner quelques indices sur les notes que je vais donner par la suite. Mais non, en tout cas, ça reste une ville connectée. Ça reste aussi une ville jeune. On a quand même 8000 étudiants, principalement sur l'université Sud-Bretagne. Et ça reste, je dirais, quand même une ville, peut-être un marché de report, si on aime bien parler de profil d'investisseurs. Voilà, pour ceux qui veulent s'intéresser à la Bretagne, qui pourquoi pas ont aussi une optique de saisonnier, puisque on peut typiquement...
Oui, c'est ça en fait. On n'est pas sur un investissement locatif traditionnel.
Non, alors on peut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le risque locatif il est pas nul, mais en tout cas ce sera loué, on a un rendement locatif qui est bon, puisque globalement, je vous parlais des prix à 3800 euros du mètre carré pour un appartement, un peu moins de 5000 euros pour une maison. En face, on a un loyer moyen de 11 euros euros du mètre carré, ce qui fait que globalement, on est sur un rendement locatif de 5%. Donc, c'est pas inintéressant. Et là, je retire le saisonnier, qui permettrait forcément d'aller atteindre un rendement plus important comme... avec des risques de vacances et autres qui sont aussi plus importants.
Mais comme vous le disiez, comme il y a une part d'achat plaisir quand on va aller vers Vannes, est-ce que c'est pas effectivement le profil plutôt de la résidence secondaire que je vais essayer quand même de monétiser via de la location ponctuelle en saisonnier?
Et on est vraiment sur l'investissement et on en parle, et l'achat plaisir à Vannes, on y est. On le verra d'ailleurs en Tibes, on peut y être aussi, même si on va être sur des prix qui sont quand même un peu plus élevés, donc sur un profil d'investisseur aussi un peu différent. Mais en effet, on a, via les prix attractifs, on a quand même un investissement qui peut répondre en effet à ce côté plaisir, mais qui sera tout à fait aussi optimisé via du saisonnier.
On part à Antibes du coup ?
Pas tout de suite.
Non, je suis breton.
On va quand même terminer sur quelques projets, parce que je parlais de ce pôle d'échange multimodal qui devrait avoir le jour au niveau de la gare à Vannes d'ici fin 2024. Il y a d'autres projets qui arrivent, notamment la ZAC du Conlo, qui est un grand projet de réaménagement de 22 hectares dans lequel on va retrouver, et ça c'est assez habituel, une mixité sur du logement, du bureau, du commerce et espace vert. C'est un projet de 250 millions d'euros qui devrait démarrer l'année prochaine et s'achever en 2028. Donc ça c'est quand même positif. Il y a encore du nouveau logement qui arrive, et ça, aujourd'hui, il faut quand même le souligner. Le campus universitaire va aussi s'agrandir, et il y a également la valorisation du front de mer pour, je dirais, encore améliorer la qualité de vie des habitants. Donc, il y a quand même des projets, je dirais, sympathiques. De là, est-ce que ça va augmenter la note ? On le verra. Je ne sais pas si déjà vous avez quelques indices. Mais ouais, peut-être.
Moi, je suis sûr quand il gagne. Mais de toute façon, j'attends que vous me disiez quand on part pour Antibes, puisque visiblement, c'est quand vous voulez.
Antibes. Eh ben, on peut parler sur Antibes, qui est quand même le joyau méditerranéen. On va peut-être pas revenir un petit peu sur ces plages idylliques et sur le climat ensoleillé de la Méditerranée. Mais c'est vrai que.
Festival de jazz.
Oh, exactement. On a aussi le Ramatuelle Festival avec des projections cinématiques ou musicales dans des magnifiques domaines entourés de vignes. Donc, voilà, je pense que Antibes est mondialement connu, puisque voilà, on a quand même une clientèle internationale assez développée et assez importante au niveau d'Antibes.
Et en nombre d'habitants, à chaque fois,
Alors, on était à peu plus de 50 000 habitants sur Vannes. On va être légèrement inférieur à 80 000 habitants sur Antibes, donc c'est un peu plus important. On va avoir, certes, là aussi, un attrait touristique très fort. On est à 3 millions de visiteurs à Vannes, on est plutôt à 2 millions. C'est quand même assez important. Mais vraiment, avec une dimension peut-être plutôt international sur Antibes, à commencer par son port de renommée mondiale, puisque c'est le premier port de plaisance qui peut accueillir, je dirais, le plus grand nombre de places de super yachts. Donc là, on est vraiment plutôt sur le luxe. On va être vraiment sur des paysages et sur un format un peu différent. On va le retrouver aussi forcément sur
les prix,
puisqu'on est sur un autre modèle finalement que Vannes. Mais il y a quand même.
C'est-à-dire, on est à combien des prix ?
On est globalement à 6100 euros du mètre carré pour un appartement.
Ah ouais, quasiment le double sur les appartements.
Un petit peu moins du double, et on va dépasser les 7000 euros du mètre carré pour une maison. Ouais. En effet, on est vraiment sur un profil d'investisseur différent.
Sur cette géographie, en plus, les maisons, c'est des produits un petit peu plus rares.
Ce que je veux dire, c'est que là, l'appartement est encore accessible. Lorsqu'on parle de villa, je parlais de maison, mais de villa, notamment sur l'arrière-pays d'Antibes, là, c'est quasiment intouchable. Donc là, ça devient très compliqué. On est sur un marché un peu niche. Bon, ça reste quand même une ville aussi dynamique, parce que j'évoquais, je dirais, les désavantages de Vannes, ou d'un point de vue économique, qui sont quand même limités. C'est pas péjoratif, mais
très dépendant du tourisme.
C'est un peu moins le cas quand même d'Antibes, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même je cherche le terme. Il y a et ça va arriver le fameux technopole Sophia Antipolis, le premier technopole d'Europe. C'est un peu moins de 40 000 salariés, c'est 2500 entreprises, donc c'est quand même assez important, et ça fait partie intégrante d'Antibes. Il y a quand même une structure économique un peu plus poussée, en tout cas un peu plus aboutie, si on parle d'Antibes, notamment avec le rayonnement de deux villes voisines. On a Cannes, on a Nice, on a l'Italie qui est aussi à côté, Monaco. Ouais. Donc c'est vrai qu'elle jouit quand même d'une position géographique assez intéressante, assez importante, avec des prix certes, je dirais, élevés, mais ça va, je dirais, avec l'image et ce joyau de la Méditerranée.
Et des loyers tout autant élevés, on imagine.
Alors, loyers tout autant élevés, mais pas suffisants. On parlait d'un rendement moyen, alors c'est vrai qu'on ne rentre pas dans le détail de la typologie, etc., mais un rendement moyen de 5% à Vannes. On est globalement entre 3,8 et 3,9%.
Ah ouais, donc on retombe quasiment sur des rendements dignes des grandes villes, des très grandes villes.
C'est
un rendement de grandes villes.
Ouais. C'est un rendement de grandes villes, mais parce qu'on est sur des prix aussi finalement de grandes villes.
Très élevés. Et là aussi, on parlait du plafond de verre pour Vannes. On en est où sur les évolutions à Antibes ? Est-ce qu'on a déjà beaucoup monté ? Est-ce qu'on peut avoir des perspectives ? Parce que typiquement, dans les très grandes villes, on dit souvent, c'est pas tant le rendement qui compte, c'est la perspective. perspective d'une éventuelle plus-value en sortie. On en est où du côté d'Antilles?
Ça dépend de la stratégie. C'est-à-dire qu'on peut se dire, finalement, je suis prêt à me mettre en risque vis-à-vis de la valeur de mon actif, même si à côté, en revanche, j'ai un rendement, en tout cas important. À l'inverse, on peut se dire, je suis prêt à acheter plus cher, perdre un peu en rendement, mais arriver sur une ville mature. Ça dépend un peu de la stratégie. Là, en termes d'évolution des prix, c'est forcément moins fort qu'à Vannes. On était à peu près à 26% d'augmentation des prix sur ces 5 dernières années pour un appartement. C'était un peu moins important pour une maison, plus 20%. Donc je ne pense pas, là, en revanche, qu'on soit arrivé sur un plafond de verre. Je pense qu'il y a encore de la marge, et on le voit notamment sur Nice, où les prix continuent encore de grimper.
Alors, après, il y a aussi une typologie d'investisseurs. On a beaucoup dit à Nice que si les prix baissaient pas et augmenter même encore malgré la hausse des taux d'intérêt, c'est aussi surtout parce que les acheteurs locaux sont souvent plus âgés qu'ailleurs et donc ils ont moins recours au crédit et moins impactés du coup par la hausse des taux. C'est le cas aussi.
C'est le cas aussi à Antibes, et on est en fait sur une population alors pas identique mais en tout cas qui se ressemble énormément à celle niçoise. Ce qui est moins le cas à La Vanne, j'en ai pas parlé, mais on est sur une population très jeune.
Plus jeune.
29% de la population a moins de 35 ans. Donc on est aussi sur une typologie d'habitants qui va être un peu différente et donc forcément on le retrouve sur le pouvoir d'achat et sur ce qui est possible de faire sur le parc immobilier. Et là aussi, Antibes peut tout à fait répondre à des besoins, notamment sur du saisonnier. On peut tout à fait trouver aussi l'achat
plaisir,
même si là, on va quand même s'orienter vers un ménage avec des moyens et un pouvoir d'achat.
Gros achat plaisir, là,
plus important.
Et sur les étudiants, justement, parce que souvent, c'est un peu le curseur quand on veut se lancer dans un investissement locatif. La part d'étudiants est souvent rassurante sur certaines villes en disant, de toute façon, je trouverai toujours un marché locatif.
C'est un peu l'image que tout investisseur a, c'est de se dire, je vise un studio, c'est étudiant, ça va fonctionner. Ce qui est vrai, mais parfois un peu faux. Là, on a une proportion d'étudiants qui est moins importante finalement qu'à Vannes. On va avoir retrouvé 5000 étudiants.
Ah, je suis étonné.
Ouais, 5000 étudiants sur une population globalement de 80 000. Donc, on a quand même un ratio qui est moins important. Donc, ça reste quand même une ville un peu plus mature. Et j'entends de là les habitants, mais aussi la ville en elle-même, qui se repose sur son port, ses festivals, son dynamisme économique local au travers de la technopole. Et puis voilà, la qualité de vie qu'on va retrouver au travers.
Il ne reste qu'une minute, Stéphane. Il va falloir nous donner les notes. Évidemment,
Antibes gagne,
on est d'accord,
Antibes gagne, Vannes est juste derrière, mais on n'est pas non plus sur des très belles notes, on n'est pas sur des très bons élèves. C'est Antibes qui l'emporte avec une note de 11,6 sur 20.
On dirait moi.
Un élève moyen, on va dire.
Un
élève moyen. Vannes est juste derrière avec une note de 11,10 sur 20. Je rectifie. Donc voilà, ça dépasse la moyenne. C'est un bon élève. Et je vous parlais un petit peu des éléments qui ont fait qu'on est quand même pas sur des très belles notes. Et on peut les citer. C'est que on est quand même sur deux villes, principalement Vannes, qui dépend principalement du tourisme. La notion de prix, on arrive quand même sur des segments en tout cas assez hauts. On est sur des rendements locatifs qui sont en tout cas assez faibles. Antibes, un peu plus important à Vannes, mais on est quand même sur deux villes où principalement le saisonnier peut s'avérer intéressant. Voilà, tous ces éléments ont fait qu'on n'est pas non plus sur de très très bons élèves, mais ça reste intéressant. Il y a encore de belles opportunités.
Du coup,
soit Antibes et Vannes.
Primo investisseur plutôt Vannes, et puis investisseur confirmé plutôt Antibes.
Exactement. Et avec dans les deux cas quand même cette notion d'achat plaisir pour éventuellement profiter durant
location saisonnière.
Exactement.
Et rentabiliser le.
Voilà. Après, méfiance tout de même avec la notion de réglementation. On est en plein dedans, même si pour le moment c'est gelé. Mais faire attention aussi, ne misez pas uniquement sa stratégie, uniquement sur du meublé saisonnier.
Mais d'où le principe, vous le répétez souvent, Stéphane, et tant mieux, voilà, diversification. Bien et sûr, puis surtout, toujours. Là, vous parliez d'achat plaisir, donc il y a aussi l'usage. Voilà.
C'est si important, c'est partie non négligeable de l'intention d'achat. Marie Cœur de Roy, merci d'avoir été avec nous. Et Stéphane Briand, en charge du pôle immobilier chez Net Investissement.
Merci Antoine.